de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'OMS affirme que les habitants de Gaza risquent la famine. Taïwan affirme que l'activité militaire de la Chine augmente à l'approche des élections. L'OMS prévient que 4 milliards de personnes risquent de contracter la dengue. Le président du PSSI parle de la transformation du football indonésien au sommet de la FIFA. BMKG exhorte les résidents à être conscients du risque de conditions météorologiques extrêmes la semaine prochaine. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a écrit samedi sur les réseaux sociaux X que les habitants de la ville de Gaza sont actuellement confrontés à la faim et vendent leurs biens pour obtenir de la nourriture. Selon lui, 4 familles sur 5 à Gaza du Nord et la moitié des familles déplacées dans la région sud n'ont ni déjeuné ni dîné depuis des jours. Il a déclaré que le conflit prolongé entrave l'accès à la nourriture et à d'autres aides humanitaires vitales qui sont désespérément nécessaires. Pour cette raison, Ghebreyesus a exhorté la communauté internationale à accroître immédiatement la sécurité alimentaire grâce à un accès rapide à l'aide à Gaza pour vaincre la faim. Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que des avions de combat et des navires de guerre chinois opéraient samedi autour du détroit de Taïwan, 3 semaines avant la tenue des élections sur l'île. Élection Taïwan entre en période de campagne pour les élections présidentielles et législatives du 13 janvier. Sa relation avec la Chine est une question controversée. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que depuis 13h30 heure locale, samedi, il avait détecté des avions G10, G11 et G16, ainsi que des avions d'alerte précoce opérant dans l'espace aérien du nord, du centre et de l'ouest de Taïwan. L'Organisation mondiale de la santé a émis un avertissement selon lequel 4 milliards de personnes risquent d'être infectées par le virus de la dengue. Cité depuis Antara à Jakarta samedi, la chef de l'équipe des arbovirus du département de préparation et de prévention des épidémies et pandémies du programme d'urgence de l'OMS, Diana Rojas Alvarez, a déclaré que plus de 5 millions de cas et 5 000 de décès dus à la dengue ont été signalés dans le monde entier à partir du début de 2023. Et près de 80%, soit 4,1 millions de cas de dengue, ont été signalés aux États-Unis, en Asie du Sud-Est et au Pacifique de l'Ouest. Le responsable de l'ONU a souligné qu'au cours des dernières années, la répartition des moustiques a changé en raison des facteurs El Niño et du changement climatique. En dehors de cela, selon lui, il y a aussi des mouvements massifs de population, de mauvaises infrastructures d'assainissement et d'eau et des catastrophes naturelles. Le président général de la Fédération indonésienne de football, Erick Thohir, a parlé de la transformation du football indonésien lors du sommet de football de la FIFA 2023 qui s'est tenu à Jeddah, en Arabie Saoudite. Dans une déclaration reçue samedi à Jakarta, Erick Thohir a parlé de la transformation du football indonésien et a également évoqué le succès de l'Indonésie dans l'organisation de la Coupe du Monde à l'âge 17 ans 2023. Lors du sommet de football de la FIFA 2023, Erick était accompagné du vice-président général de la PSSI, Zainuddin Amali, et du secrétaire général de la PSSI, Yunus Nusi. Selon Erick, la présence des représentants du PSSI aux réunions internationales est très importante pour le progrès du football indonésien. En effet, au cours de cette réunion, Erick a pu échanger des idées avec des représentants d'autres pays sur divers problèmes de gouvernance du football. Au total, 211 pays membres de la FIFA ont assisté au sommet de football de la FIFA 2023. La réunion a eu lieu pour entendre les déclarations du président de la FIFA, Gianni Infantino, et d'autres responsables de la FIFA concernant les projets de développement du football en cours et ceux qui auront lieu à l'avenir. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, ou en indonésien, abrégé en BMKG, exhorte les résidents à être conscients du risque de conditions météorologiques extrêmes au cours de la semaine prochaine, pendant les vacances de Noël 2023 et du Nouvel An en 2024. Guswanto, adjoint à la météorologie du BMKG, a déclaré samedi dans un communiqué à Jakarta que des fortes pluies et un risque de température torride pourraient encore survenir dans certaines parties de l'Indonésie, déclenchées par plusieurs phénomènes atmosphériques dynamiques. Outre les conditions météorologiques extrêmes, BMKG fournit également des informations sur la poussière volcanique susceptible de mettre en danger les activités aériennes. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « L'OIM et le BPS lancent une collaboration sur des données uniques sur les migrations internationales ». L'Organisation internationale pour les migrations, ou abrégée en OIM, en collaboration avec le Bureau central indonésien des statistiques, ou Badan Pusat Statistik, ou abrégé en BPS, a organisé le lancement de la collaboration d'une donnée sur les migrations internationales, ou Satu Data Migrasi International, abrégé en SDMI, mercredi, au siège du BPS Jakarta. Dans un communiqué officiel reçu jeudi par RRI Voice of Indonesia à Jakarta, on a déclaré que l'activité, à laquelle ont également participé le ministre coordinateur du développement humain et de la culture et le chef par intérim du BPS, visait à lancer officiellement des efforts de collaboration pour implémenter SDMI. En dehors de cela, présenter le projet proposé de plan directeur et de feuille de route SDMI 2023 à 2028 préparé par le BPS et l'OIM à travers un dialogue avec divers ministères, institutions, résumé de politique préparé par BPS et BRIN, un guide sur les concepts et définitions SDMI qui est un produit collaboratif du BPS et de l'OIT, ainsi qu'un prototype de portail SDMI qui peut être développé pour contenir diverses données standardisées sur la migration internationale provenant de divers ministères et institutions. Exécuteur de tâches de la chef du BPS Amalia Adininger Widya Santi a déclaré que la migration internationale est devenue l'un des problèmes les plus difficiles auxquels sont confrontés les décideurs politiques du monde entier en raison de la complexité de la mobilité et de l'interdépendance des questions de migration avec d'autres problèmes socio-économiques. Selon lui, des données fiables et actuelles sont nécessaires pour informer les décideurs politiques en matière de migration et pour fournir une aide humanitaire, ainsi que pour maximiser l'impact positif de la migration sur le développement. Il a déclaré qu'il était nécessaire d'intégrer les données qui ont été réparties entre diverses institutions et organisations du niveau villageoise au niveau national. Selon lui, l'intégration des données liées à la migration internationale doit être soutenue par le renforcement de la coordination intersectorielle et un système intégré pour renforcer une meilleure gouvernance et gestion des données. Par ailleurs, le ministre coordinateur du domaine du développement humain et de la culture, ou en indonésien, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, abrégé en PMK, Muhajir Effendi, a déclaré dans son discours que l'un des obstacles à l'élaboration de politiques liées à la migration internationale jusqu'à présent était la difficulté d'obtenir des informations et des données précises. Par conséquent, des données intégrées et de qualité sont nécessaires et devraient être produites via SDMI. Abordant la célébration de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre, le ministre Muhajir a déclaré que le SDMI était une forme de respect des droits et libertés fondamentaux de millions de migrants à travers le monde qui ont contribué à la réussite de leur pays d'origine et de destination, y compris ceux qui viennent d'Indonésie. Jeffrey Labofid, chef de mission de l'OIM en Indonésie, a également souligné l'importance de l'initiative SDMI pour parvenir à une migration bien gérée et fondée sur des données probantes. Selon lui, une bonne gestion des migrations peut être créée grâce à la mise en œuvre de politiques migratoires globales, cohérentes et axées sur des résultats à long terme. Jeffrey Labovit a déclaré que basé sur la collaboration avec le BPS et le secrétariat d'une donnée indonésienne, l'OIM a préparé un projet de plan et de feuille de route pour le SDMI 2023 à 2028 afin de préparer une stratégie claire pour le développement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du SDMI. Cette activité est la première étape dans la mise en œuvre du SDMI et on espère qu'elle pourra encourager davantage de dialogues et de discussions pour la réalisation du SDMI en considérant la portée de la collecte et de l'utilisation des données sur la migration internationale en Indonésie, la répartition des rôles et des responsabilités entre les ministères et les institutions concernées, les mécanismes de coordination via le forum SDMI, des aspects techniques tels que la protection des données personnelles, ainsi que les systèmes de soutien à l'interopérabilité des données qui peuvent être mutuellement convenus. Dans sa mise en œuvre, cette activité est soutenue par le Bureau de la population des réfugiés et des migrations à travers le Programme régional de migration pour l'Asie qui est mis en œuvre par l'OIM dans 12 pays, dont l'Indonésie. On espère que le lancement de la collaboration SDMI pourra soutenir la position de l'Indonésie en tant que l'un des principaux pays au monde pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, ou Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, ou abrégé en GCM, ainsi que pour atteindre l'Indonésie en or 2045 et les objectifs de développement durable. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 24 décembre. On commence par le 24 décembre 1914, la trêve de Noël de la Première Guerre mondiale. La trêve de Noël, ou Christmas Truce, est le nom d'un cessez-le-feu intervenu le jour de Noël entre les troupes du bloc central et les soldats du bloc allié pendant la Première Guerre mondiale, précisément en 1914. Citant Britannica.com, l'empereur allemand Guillaume II a envoyé des arbres de Noël sur les lignes de front dans le but de remonter le moral. Les soldats allemands commencent à installer des arbres de Noël. Ils ont chanté des hymnes tels que Stilna ou en anglais Silent Night. À la veille de Noël 1914, plusieurs soldats allemands sortirent de leurs tranchées et se dirigent vers la ligne de défense ennemie dans le No Man's Land en Belgique en criant « Joyeux Noël » en anglais. Au départ, les soldats anglais pensaient qu'il s'agissait d'un piège. Cependant, après avoir vu les soldats allemands sortis sans armée, ils sont également sortis et ont fini par se mélanger et échanger des cadeaux. Le 24 décembre 1994, des terroristes détournent en tout des passagers d'Air France. Quatre terroristes auraient détourné un avion d'Air France. L'avion, numéro de vol 8969, a été détourné dans la capitale algérienne, Alger. L'incident s'est produit le 24 décembre 1994. Dans son action, le groupe terroriste a tué trois passagers. Ils ont également envoyé cet avion commercial vers une ville de France, Marseille. Face à ces violences, le premier ministre français de l'époque, Édouard Balladur, prend immédiatement une décision d'urgence. Il a ordonné le recours aux opérations militaires pour mettre fin à cet acte de terrorisme. Il a réussi à sauver les passagers restants de l'avion d'Air France. Après avoir été secourus, les passagers ont déclaré que les terroristes qui les retenaient en otage envisageaient de faire exploser l'avion à Paris. Le 24 décembre 2000, l'attentat à la bombe en Indonésie, la veille de Noël. La veille de Noël, le 24 décembre 2000, une série d'attentats à la bombe ont eu lieu contre plusieurs églises en Indonésie. Certaines des zones touchées par l'attaque terroriste étaient Batam, Pekanbaru, Jakarta, Sukabumi, Pangandaran, Bandung, Kudus, Mojokerto et Mataram. Citant Tempo Puanco, à Jakarta, il a été enregistré que l'explosion a fait 6 morts, 54 autres blessés et des dizaines de voitures ont été détruites. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Hidup ter dekat untuk cerita tentang kau dan aku. Kau pergi tanpa pesan terakhir dariku yang menyertaimu. Kau selalu ku kenal saat kau langkahkan kakimu untuk tinggalkanku dan kau pergi selamanya. Hingga bayangmu pun tak mampu kulihat lagi. Kini kau telah pergi jauh untuk selamanya. Hari-hariku saat tak bersamamu, kau selalu ku kenang dan selalu ku
Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, mon Indonésie d'aujourd'hui, intitulée « On espère que PON 2024 produira des athlètes exceptionnels pour le futur ». Le vice-président Maruf Amin espère que la tenue de la Semaine nationale du sport, ou PON, 2024 à Sumatra du Nord et à Aceh pourra produire des athlètes avec des meilleures réalisations que les événements PON précédents. C'est ce qu'a déclaré le vice-président Maruf Amin lors de la réception de la nouvelle direction du Comité national indonésien des sports, ou CONI, pour la période 2023 à 2027, dirigée directement par le président général du CONI, Marciano Norman, mardi à Jakarta. Selon le vice-président, faisant référence à l'objectif ou à l'ambition du grand dessein du sport national ou DBON, avec des sports prioritaires pour les Jeux olympiques, l'Indonésie doit être en mesure de produire des athlètes ayant des réalisations régionales et internationales. Pour cette raison, le vice-président Maruf Amin, en tant que président de l'équipe de coordination du Centre national de conception sportive, a encouragé CONI à augmenter le nombre de championnats et d'écoles sportives, en particulier dans les régions, afin de former des athlètes nationaux exceptionnels. Pendant ce temps, Maruf Amin espère que l'arène sportive qui a été utilisée pour PON sera bien gérée après le grand événement sportif national et que la gestion post-activité pourra se faire en collaboration avec le secteur privé. En dehors de cela, Maruf Amin espère que CONI, en mettant en œuvre le PON 2024, qui se tiendra pour la première fois dans deux provinces, pourra contribuer à accélérer le redressement économique de la région hôte. Le vice-président a également souligné l'importance de former des entraîneurs sportifs fiables. Car, comme dans le monde de l'éducation, le rôle des enseignants est très important pour produire des élèves exceptionnels. Pendant ce temps, le président de CONI, Marciano Norman, a déclaré que les provinces de Sumatra du Nord et d'Aceh étaient prêtes à organiser le PON 2024 du 25 septembre au 9 octobre 2024 avec des participants au PON couvrant 38 provinces, dont les 4 nouvelles régions autonomes de Papouasie. Selon Marciano, les deux régions qui accueillent le PON 2024 continuent de terminer les dernières étapes des différentes arènes en collaboration avec le ministère des Travaux publics et du Logement public. Selon lui, Sumatra du Nord, il existe 35 sports et à Aceh, 34 sports sont pratiqués. En outre, concernant le DBON, Marciano a indiqué que le programme DBON était très bon, avec 14 sports de premier plan, avec des réalisations croissantes.
Sadar ku telah sendiri. segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Jepara est une zone côtière célèbre pour ses fruits de mer. Non seulement les fruits de mer, les amateurs de culinaire qui visitent cette ville peuvent également goûter les délices culinaires légendaires de Jepara, à savoir le bongko mento. Bongko mento est un plat culinaire originaire du royaume de Kalinyamat, le palais de Jepara. Ce plat culinaire est une omelette à la farine de riz arrosée de lait de coco et contient du poulet râpé, des vermicelles et des champignons de bois. En dehors de cela, on enveloppe généralement le bongko mento dans des feuilles de bananier et c'est petit. Le processus de préparation de ce plat culinaire ne prend pas beaucoup de temps. Tout d'abord, faites chauffer l'huile pour faire revenir les épices moulues jusqu'à ce qu'elles soient parfumées, composées d'échalotes, d'ail, de noix de bougie, de cumin et de coriandre. Ajoutez petit à petit le poulet émincé et le lait de coco, puis remuez jusqu'à cuisson. Ajoutez ensuite les vermicelles et les morceaux de champignons et remuez jusqu'à ce que le mélange devienne sec. Éteignez ensuite le feu. Réalisez la peau en mélangeant l'œuf battu, la farine, l'eau et le sel, puis remuez jusqu'à obtenir une consistance lisse. Ensuite, faites chauffer à nouveau l'huile pour faire une fine omelette. Prenez une feuille, remplissez-la au milieu, puis pliez-les parties gauche et droite. Roulez ensuite l'omelette. Répétez jusqu'à ce que l'omelette et la garniture soient épuisées. Enveloppez l'omelette roulée fourrée dans des feuilles de bananier, ajoutez le lait de coco, puis enveloppez bien, puis faites cuire à la vapeur pendant environ 30 minutes. Une fois cuit, servez avec du lait de coco appelé are, qui est fabriqué à partir de lait de coco et de sel. Cette collation peut être un choix délicieux pour une gâterie savoureuse lors d'une réunion sociale ou d'une petite fête à la maison. Bongko mento est généralement vendu sur les marchés et stands traditionnels ou dans les restaurants à un prix très abordable. pour un paquet est généralement vendu pour 3000 roupias.
Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku.
Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est La réplique d'arbre de Noël en jacinthe d'eau. Le sapin de Noël est un symbole de chaleur et de joie lors de la célébration de Noël. En Indonésie, la tradition de célébrer Noël est très forte. Et les Indonésiens disposent d'une richesse naturelle extraordinaire. Il n'est pas surprenant que l'arbre de Noël utilisé pour célébrer le Noël ait sa propre singularité. Dans un esprit de durabilité environnementale, une nouvelle façon unique de célébrer Noël a émergé en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement, dont un sapin de Noël en jacinthe d'eau. Cet arbre de Noël unique mesure 13 mètres de haut et 8 mètres de diamètre au parc de Salocatem, à la région de sous-marin Java Central. Cet arbre a même reçu un accord de musée indonésien des records du monde. Pour fabriquer ce sapin de Noël, vous avez besoin d'environ 400 kg de hyacinthe d'eau et sa fabrication prend environ 3 semaines. Le processus de fabrication de la réplique du sapin de Noël implique également la communauté locale. La communauté peut travailler ensemble pour fabriquer cet arbre de Noël dans le cadre d'activités de coopération mutuelle. La région de Semarang, Nesti Nugraha, a apprécié la créativité de la direction du parc Salocatem qui a eu l'idée de fabriquer une réplique d'arbre de Noël en hyacinthe d'eau. Selon lui, ce sera une expérience différente pour les visiteurs de voir un sapin de Noël géant fabriqué à partir de hyacinthe d'eau. L'arbre de Noël en hyacinthe d'eau signe que la beauté de Noël peut être réalisée en prêtant attention à la durabilité environnementale. La hyacinthe d'eau, ou également connue sous le nom de taro de drap, est une plante aquatique souvent considérée comme une mauvaise herbe. Cependant, entre des mains créatives, la hyacinthe d'eau peut être transformée en un super matériau pour un arbre de Noël.
Sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kan ku arungi Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Kuda gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadari.
Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je vous donne une chanson de Bisma Karisma. Bisma Karisma naît à Bandung le 27 novembre 1990, est un acteur et chanteur indonésien. Bisma a longtemps été en pause dans le monde de la musique, il est maintenant de retour avec son projet solo. Jusqu'à présent, Bisma a toujours été connu comme l'un des membres du boy band Smash. Cette fois, il veut montrer davantage son autre côté au public afin qu'il puisse l'accepter complètement. Le 1er décembre 2023, Bisma Karisma sort un single intitulé « Alalia ». Selon le KBBI, Alalia désigne l'incapacité de parler en raison d'anomalies ou de dommages à l'appareil vocal externe et non au chantre nerveux. Musicalement, ce single est différent à 180 degrés des chansons de Smash. Dans cette chanson, Bisma a impliqué Lava Pratomo en tant que producteur et cela a eu un grand impact sur l'arrangement de « Alalia ». Ce single reprend le genre pop avec des synthétiseurs dominants, donnant une impression mélancolique. Bon, chers auditeurs, voici Bisma Karisma dont le titre est Alalia. Bonne écoute!
Yeah.
Voice of Indonesia.
Hey, we back. Get back with us again.
Sedih karena sering dibully, pernah jadinya malu karena dicibir mulu. Bukannya ku tak mendengar kata-kata yang kasar, bukannya ku tak peduli semua caci dan maki.
Cuci dengan senyuman prestasi. Tak pernah ku malu karena cibiranmu. Ku jadikan motivasi untuk maju. No more mellow, say no to galau. No more tears, say no to fear. Let's sing together all day long. Let's dance together all night long. Let's sing together all day long. Let's dance together all night long.
Senyumanku tak akan pernah luntur lagi. Sing it all day long. Senyumanku tak akan pernah patah lagi.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.